Marchandes de sable, malices et maléfices, 10 contes de fantômes de Jacques Cassabois.
You will see this town of Halloween.
This is Halloween, this is Halloween.
Pumpkins scream in the dead of night.
Le retour de la mer. Yann s'était marié avec Louise Yvonne, une gentille fille, peu bavarde, effacée, avec un penchant marqué pour la mélancolie. Ce n'est pas lui faire injure que de le souligner, puisque c'était sa nature. Certains se demandaient même comment elle avait pu séduire un homme, à quoi d'autres répondaient que justement, elle avait su éveiller en lui son désir de consolation. Il est difficile de se prononcer, car les raisons d'aimer sont parfois déroutantes. « Bah !» s'exclamaient ceux qui détestaient les complications. « L'important, c'est que le mari ait trouvé chaussure à son pied !» Et ils s'esclaffaient de leurs bons mots, car Yann exerçait la profession de cordonnier. L'union de Yann avec Louise Yvonne ne dira guère, juste le temps de faire un enfant. Une fille, Rosaine. La mère confia la petite à son père comme un relais que l'on transmet. Car aussitôt après avoir conduit cette vie à bon port, elle prit le large et mit le cap sur l'autre rive du monde. Ne s'était-elle mariée que pour permettre à une âme d'éclore ? Sa façon de mourir une fois sa mission accomplie autorise à se le demander. Yann se retrouva donc avec un enfant sur les bras. Il s'en accommoda, tant bien que mal, et fit le nécessaire pour que sa fille ait toujours le ventre plat. Pour le reste, la vie continuait et il n'était pas du genre à trop se lamenter sur celle qu'il avait perdue. Il était bel homme et gagnait bien, des qualités qui le rendaient intéressant. Parmi toutes les filles des environs qui lorgnaient sur lui, c'est Jeanne Lazuron qui lui mit le grappin dessus la première. Une vraie pirate cette Lazuron, et délurée, aussi exubérante que Louise Yvonne était discrète. Pour la rigolade, il ne fallait pas lui en promettre. Sa tentative d'abordage réussit, car Yann l'épousa 3 mois après avoir enterré sa première femme. C'était aux alentours de Pâques. Dans la région, cette fête religieuse donnait le coup d'envoi à une saison de réjouissance dans les villages, une vieille tradition. On se réunissait les dimanches pour se divertir et pour danser au son de la cornemuse ou du violon. « On ne va pas louper ça, mon Yann !» s'enflammait Jeanne, les yeux brillants. « Ce sera notre cadeau de noces !» Yann était prêt à se laisser entraîner. Mais il y avait Rosaine. « Qu'est-ce qu'on va faire de la petite ? » demanda-t-il, ennuyé. « On ne peut tout de même pas l'emmener. »« Eh bien, on la laisse. C'est pas plus compliqué. On donne la clé à la voisine, et si quelque chose ne va pas, elle est sur place pour venir voir en cas de nécessité. De quoi as-tu peur ? Qu'on vienne te la voler ?» Elle s'esclaffait avec un drôle de rictus. Elle avait l'air de dire « Si ta morveuse disparaissait, ce serait bon débarras. » Yann n'arrivait pas à se décider. « Oui, mais... » reprenait-il. « Toute seule, de midi jusqu'à la nuit. » « Ne t'en fais donc pas, les nourrissons, c'est comme les petits chiens. Ça dort tout le temps et ça se rend compte de rien. Tant que ça ne sait pas parler, profitons-en, justement. » Comme il restait réticent, elle le prit par la taille en roucoulant. « Mon beau cordonnier délaisserait déjà sa jolie mariée ?» minaudait-elle en lui agaçant le creux du cou et des oreilles. « C'est toi que j'ai épousé, pas le petit tas de l'ange qui chouine dans son berceau. Alors dis oui, mon chéri. » Il finit par céder, et tous les dimanches, à peine la soupe de midi avalée, le cordonnier fermait boutique, tapait au carreau de la mère Pébel, la voisine, pour l'avertir qu'il partait, sa femme et lui. Dans la cuisine, la vieille femme haussait les épaules pour montrer qu'elle avait entendu, mais ne changeait rien à ses habitudes. Elle tricotait des gilets pour les marins, ce qui lui rapportait juste de quoi remplir sa marmite. Et comme elle souffrait des jambes, elle n'était pas disposée à multiplier les allées et venues entre sa maison et celle du cordonnier qui préférait s'amuser que d'élever sa fillette. Si les parents sont incapables de s'occuper de leur gamin, pensait-elle, est-ce que la tâche doit retomber sur les voisins ? C'est le monde à l'envers. Quelle misère ! Le lundi matin, le père venait tout de même aux nouvelles. « Alors, mère Pébel, ma mignonnette n'a pas trop fait sa vilaine ? Pensez-vous ! répondait la vieille. Sage comme une image, un vrai petit ange. Le plus étonnant, c'est que sans s'en douter, la voisine disait la vérité. Pendant les absences de son père, Rosaine ne trouvait pas le temps long et ne pleurait pas. Dans un village, tout se sait. Les escapades des deux fêtards passaient d'autant moins inaperçues qu'ils ne se cachaient pas, et personne n'ignorait que la mère Pébelle ne pouvait pas être une gardienne assidue. Pourtant, la petite ne semblait pas souffrir d'être abandonnée. Elle se développait aussi bien qu'un enfant dont on s'occupe. Elle était gaie comme un pinson, éveillée, rose et potelée. Bref, elle offrait le visage d'un bébé épanoui. Et à cet âge-là, un visage ne trompe pas. Alors, comment expliquer pareil mystère ? Les suppositions allaient bon train. On bavardait de maison à maison et chez les commerçants. L'épicière, la mère Pédron, prétendait que ces choses n'étaient pas naturelles et précisées, mais à mi-voix qu'il y avait des manigances pas catholiques là-dessous. C'est diablerie et compagnie, si vous voulez mon avis. Un dimanche que le père indigne était parti guincher avec sa dulcinée, elle se glissa jusqu'à l'échoppe du cordonnier. Là, elle se posta à côté de la fenêtre et guigna à l'intérieur. Elle ne s'attendait sûrement pas, toute fanfaronne qu'elle était, à y découvrir le spectacle qui l'attendait. Elle sentit fondre ses jambes, comme si elles étaient de neige, et sa langue aussi bien pendue séchait dans sa bouche et se collait à son palais. Ah, elle n'en menait pas large. Elle s'écarta de la croisée et s'adossa contre le mur, en se signant à trois reprises. Puis, un peu calmée, et sa curiosité reprenant de la vigueur, elle ramena son nez vers le carreau. Non, elle n'avait pas rêvé. Une femme était bien assise au milieu de la pièce et parlait à la petite Rosaine qu'elle tenait dans ses bras. Celle-ci l'écoutait, le souriait en babillant, remuant ses menottes. Cette femme, l'indiscrète épicière l'avait reconnue au premier coup d'œil. C'était Louise Yvonne en personne, la maman, revenue du pays des morts pour s'occuper de son enfant délaissé. Son linceul, qu'elle portait en guise de robe, se confondait avec le sol, comme si elle était exhalée par le souffle de la terre. Son teint était si translucide qu'on aurait dit du parchemin, et ses traits, si désenchantés de son vivant, irradiés, illuminés du dedans. Ces deux êtres se contemplaient, rivés à l'autre par le regard, comme si un flux de sérénité s'écoulait de la mère vers l'enfant. La fouineuse qui espionnait ressentit la puissance de cet amour et fut parcourue de frissons. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises, et elle fondit en larmes quand elle vit Louise Yvonne se dénuder le buste et Rosaine prendre le sein avec naturel pour se nourrir d'éternité. L'épicière se précipita chez la mère Pébelle. « Si, si, venez » l'implora-t-elle tout agitée. « Je veux être sûre que vous voyez la même chose que moi. » Quand elles arrivèrent, un peu plus tard, la plus jeune soutenant l'infirme qui marchait avec difficulté, Rosaine dormait, riant aux anges, sur la poitrine de sa maman, qui la parsemait de pétales d'aubépine en lui fredonnant un chant du paradis. « Jésus-Marie !» s'exclama la vieille femme, soudain pâle comme un fromage caillé. Elle ne voulut pas s'attarder et se fit accompagner en marmonnant des prières. La Pédron était un peu rassurée. Elle n'avait pas été victime d'une hallucination. Néanmoins, elle était secouée et fut incapable de se taire. Elle eut besoin de partager son secret pour s'apaiser. Elle conduisit même celle qui doutait à la fenêtre du cordonnier pour bien leur prouver qu'elle ne mentait pas. Chaque témoin eut ainsi sa version à raconter. La nouvelle courut, au trot, au galop, et puis se déforma. On prétendit que la maison de Yann était hantée, qu'il avait vendu sa fille à des revenants, l'indigne, et que s'il s'absentait si souvent, c'était pour mieux les laisser profiter de sa petite. « Infamie, qu'un tel père! On devrait l'arrêter, le tourmenter, le faire subir l'enfer !» On accusait même la Jeanne, qui aimait tant rigoler, d'avoir tout manigancé. Les bruits parvinrent aux oreilles du couple. Yann sentit l'hostilité des gens et décida de changer de vie, radicalement. Il n'abandonnerait plus sa petite, veillerait qu'elle ne soit plus jamais seule. Quant à Jeanne, elle promit qu'elle n'irait plus danser. C'est ainsi qu'à trop vouloir faire le bien pour racheter leur faute, ils précipitèrent le mal. En effet, la voix n'étant plus jamais libre, Louise Yvonne ne pouvait plus rendre visite à son enfant chéri. Rosaine, brutalement sevrée d'amour maternel, refusa de manger, refusa de dormir, repoussait sa belle-mère quand elle la prenait dans ses bras, poussait des hurlements quand son père l'approchait. elle s'affaiblit. Ses bonnes joues fleuries fanèrent, ses yeux pétillants de gaieté s'éteignirent, et lorsqu'elle était épuisée d'appeler de toute la force de ses sanglots l'ombre affectueuse qui ne venait plus, elle demeurait de longues heures dans son berceau, prostrée. Un matin, à son réveil, son père la découvrit immobile. Elle souriait, ses petites mains ouvertes. On aurait dit une poupée de porcelaine qui tendait les bras. Il se pencha sur elle pour lui déposer un petit baiser sur le nez, mais elle ne le voyait plus. Elle était loin déjà, blottie contre sa maman qu'elle avait retrouvée.
This is Halloween,
pumpkins scream in the dead of night. This